Cependant, s'il n'arrive pas à le toucher, il continuera la circonambulation et il ne fera pas de signe dans sa direction, il ne dira pas « Allahu Akbar » lorsqu'il passe tout près, parce que cela n'a pas été confirmé par le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à ce que l'on sache. Il y est préférable de dire entre le coin Yémen et la pierre noire
« Seigneur, accorde-nous belle part ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà et protège-nous du châtiment du feu. »
Et chaque fois que les pèlerins passent à côté de la pierre noire, ils la touchent, la baisent et disent « Allahu Akbar ». Et s'ils n'arrivent pas à la toucher et la baiser, il lui suffit de faire signe en sa direction et de dire « Allahu Akbar ». Ensuite, il descend en refaisant le même trajet qu'à l'aller et il marche là où il faut marcher et il accélère là où il faut accélérer jusqu'à son arrivée à Safa. Ce circuit est à faire 7 fois parce que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a fait comme indiqué précédemment et a dit
« Imitez-moi dans l'exécution de vos rites ».
Il est préférable de multiplier le rappel d'Allah et les invocations au cours de ce trajet et d'être purifié par ablution de toute souillure, et s'il fait le trajet, le sa'y, sans être en état de pureté, cela lui est permis, car la pureté n'est pas une condition nécessaire, mais il est louable d'en tenir compte. Il est ainsi permis à la femme ayant eu des menstrues ou ayant accouché après le tawaf d'accomplir le sa'y. À l'issue de ces trajets, le pèlerin se rase la tête ou se coupe les cheveux, et le rasage est plus méritoire pour l'homme. S'il se coupe les cheveux et laisse le rasage pour le pèlerinage, ce sera louable. Si son arrivée à Makkah al-Mukarrama est rapprochée du moment du Hajj, il lui est préférable de se couper simplement les cheveux afin de pouvoir se raser la tête par la suite après le Hajj. Car le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, à son arrivée avec ses compagnons à Makkah al-Mukarrama le 4e jour du mois de Dhuhijja, a ordonné à ceux qui n'avaient pas d'offrande avec eux de se libérer de leur ihram, de se couper les cheveux, et il ne leur a pas ordonné de se raser. Il faut que la coupe des cheveux englobe la totalité de la tête, et on ne doit pas se contenter d'une partie. Il en sera de même pour le rasage. On ne prescrit à la femme que la coupe des cheveux, et il lui est légiféré de couper de chaque tresse une partie de la longueur d'une phalange, mais sans plus. Lorsque le pèlerin aura accompli ce que nous venons d'expliquer, il aura parachevé sa Omra, et tout ce qui lui était interdit jusque-là redevient permis, à moins qu'il n'ait apporté son offrande avec lui avant son arrivée au Mifrat. Dans ce cas, il doit rester en état d'Ihram jusqu'à l'achèvement du rite du Hajj après la Omra et s'en libérer une fois pour toutes. Quant à celui qui se met en état d'Ihram en vue du Hajj uniquement, le Moufid, ou bien pour le Hajj et la Omra ensemble, le Mukhrim, la Sunna lui permet d'effacer ou d'annuler son Ihram après la Omra et de faire comme celui qui est en tamattu', sauf s'il a apporté déjà son offrande. Parce que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a ordonné cela à ses compagnons quand il a dit
« Si je n'avais pas déjà apporté l'offrande, je me serais libéré, c'est-à-dire désacralisé avec vous. »
Lorsque la femme accouche ou se sent en menstrue après son ihram pour la Omra, elle ne doit pas faire le tawaf autour de la Kaaba, ni le circuit entre Safa et Al-Marwa jusqu'à sa purification. Lorsqu'elle est purifiée, elle peut faire le tawaf et le circuit de Sa'y, se couper une partie des cheveux et achever ainsi sa Omra. Et s'il n'est pas purifié avant le jour de Tarouya, le 8e jour du mois de Dhuhijja, elle se mettra en état d'Ihram en vue d'accomplir le Hajj à partir du lieu où elle se trouve et sortira avec les pèlerins vers Mina. Ainsi, elle sera en situation de Qiran, réunion du Hajj de la Omra, et sera suspendue aux pèlerins pour le Hajj, c'est-à-dire le stationnement à Arafat, au Mishar, endroit sacré, la lapidation des seuls, le passage de la nuit à Muzdalifa et Mina, l'immolation de l'offrande, la coupe des cheveux, et lorsqu'elle est purifiée, elle fera le tawaf autour de la Kaaba et la course du Sa'y contre Safa et Al-Marwa, une seule fois de chaque. Ce sera suffisant pour son Hajj et sa Omra réunie, conformément au hadith rapporté par Aïcha, qui était en menstrue après son Ihram, en vue d'accomplir la Omra. Alors le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, lui a dit
« Fais ce que fait le pèlerin pour le Hajj, mais ne fais le tawaf autour de la maison que lorsque tu seras purifié. »
De l'accord de Bukhari et de Muslim. Lorsque la femme en menstrue en période d'accouchement a lapidé les stèles le jour de l'immolation, et lorsqu'elle s'est coupé les cheveux, elle peut se permettre tout ce qui lui était interdit en état d'ihram, tel le parfum, etc. Excepté les relations avec son mari, et cela jusqu'à ce qu'elle termine les rites de son hajj comme les autres femmes purifiées. Et quand elle aura fait le tawaf autour de la Kaaba et le trajet entre Safa et Marwa après sa purification, les relations conjugales lui seront permises.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
لك لبيك L'huit exigeant en formulant l'intention d'accomplir le pèlerinage et puis qui se rend à Mina.
Quand arrive le jour de la Tarouya, c'est-à-dire le huitième jour du mois de Dhul-Hijja, il est louable pour ceux qui se sont désacralisés et restés à Makkah al-Mukarrama, et pour celui qui désire faire le Hajj parmi les habitants des lieux saints, de se mettre en état d'ihram à partir de sa résidence, car les compagnons du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ont résidé au lieu dit Al-Abtah, et se sont mis en état d'ihram à partir de là, suivant l'ordre du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, le jour de la Tarouya, et il ne leur a pas ordonné d'aller à la maison, c'est-à-dire la Kaaba, pour se mettre en état d'ihram à proximité ou au Mizad, comme il ne leur a pas ordonné de faire le tawaf d'adieu à leur sortie vers Mina. Et si cela était permis, il leur aurait fait savoir. Et tout le bien réside dans le fait de suivre l'exemple du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et de ses compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux. Il est préférable que le pèlerin se lave soigneusement et se parfume lors de son ihram pour le hajj, comme il l'aura fait à partir du miqat. Après quoi, il se dirige vers Mina avant l'inclinaison du soleil de midi, ou peu après, du jour de la Tarouya, et on multiplie la Salbiya, le Baik Allahumma le Baik, etc., jusqu'au moment où on lapide la Jabra, la stèle de l'Aqaba. Et à Mina, on fera l'office de prière du Dhuhr et du Asr, du Maghrib et du Isha et du Fajr. Il est de tradition du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, de faire chaque prière en son temps, en la réduisant à deux rak'ahs, sans les réunir, à part le Maghrib et le Fajr, qu'il ne faut pas réduire. Il n'y a pas de différence entre les habitants de Makkah al-Mukarrama et les autres, car le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a prié au-devant des pèlerins sans distinction entre les habitants de Makkah et les autres pèlerins, à Mina, à Arafat et à Muzdalifa, en réduisant la prière, et il n'a pas ordonné aux originaires de Makkah de terminer. Et si cela leur était obligatoire, il le leur aurait indiqué. Puis, après le lever du soleil, le jour de Arafat, le pèlerin se dirige de Mina à Arafat, et il est de tradition de rester à Namira jusqu'à midi si possible, comme l'a fait le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Après l'inclinaison du soleil, il est recommandé à l'imam ou son suppléant de prononcer le sermon parmi les fidèles et, selon les circonstances, en précisant ce qui est permis ce jour-là et les jours suivants et en leur ordonnant la crainte d'Allah, son unicité et la fidélité à lui dans toute action, tout en leur recommandant de s'en tenir au livre saint d'Allah et à la sunna de son prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Après cela, on fait l'office de la prière du Dhuhr et de Asr en les réduisant et en les réunissant au moment de la première nommée par un seul appel à la prière et deux fois la Iqama, Iqama bis Salah, conformément à ce qu'a fait le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, rapporté par Muslim du hadith de Jabir. Ensuite, les pèlerins stationnent à Arafat et tout y est station, sauf l'endroit appelé Batna Harana, et il est louable de s'orienter vers la Qibla et vers le mont Ar-Rahma si possible. Sinon, on s'oriente vers la Qibla seulement, suivant une direction autre que celle du mont Ar-Rahma, et il est louable que le pèlerin multiplie les invocations à Allah le tout glorieux en cette circonstance. Être humble envers son Créateur, il lèvera les mains lors des invocations et s'il prononce la talbiya ou récite les versets du Saint-Coran, tout cela est bien rétribué. Il est de tradition de multiplier la formule « La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamd, yufyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir ». Conformément à ce qu'on rapporte du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui a dit
« La meilleure des invocations est celle du jour de Arafat. Et la formule la plus méritoire que j'ai dite, moi et les prophètes qui m'ont précédé, est « Il n'y a d'autre divinité qu'Allah, l'unique, sans associer à lui la royauté, à lui la louange, il donne la vie et il donne la mort, et il est omnipotent. »
On affirme que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit
« Les paroles les plus agréables à Allah sont au nombre de quatre. » Subhanallah, gloire à Allah, walhamdulillah, et louange à Allah, wa la ilaha illallah, et il n'y a de divinité qu'Allah, wallahu akbar, et Allah est plus grand.
Donc, il faut multiplier ces formes de rappel d'Allah dans la crainte et la piété, et il faut également multiplier les invocations connues dans la pratique religieuse à tout moment, et surtout en pareil lieu et en ce grand jour, où le pèlerin choisit la majorité des formules d'invocation d'Allah.
Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. La ilaha illa Allah, wa la na'budu illa iyyah. Lahu al-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu al-thana'u al-hasan. La ilaha illa Allah, mukhlisina lahu al-din wa lahu kariha al-kafirun. لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Il est louable en cette grande circonstance que le pèlerin multiplie les invocations à Allah, ces invocations qu'on vient de citer ou toute autre invocation de sens analogue, ainsi que la bénédiction sur le prophète et la bénédiction d'Allah sur lui. Il insiste dans son invocation et sollicite auprès d'Allah les bienfaits dans ce monde et dans le delà. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, lorsqu'il invoquait, répétait l'invocation trois fois. Aussi faut-il suivre son exemple, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Il faut donc que les musulmans fassent preuve de piété, qu'ils humilient leur ennemi Satan et qu'ils l'attristent par la multiplication des invocations à Allah et l'assiduité au repentir et à la sollicitation du pardon de tous les péchés et erreurs. Les pèlerins persisteront en cette situation occupée par les invocations et la soumission jusqu'au coucher du soleil. Après quoi, ils s'en vont vers Muzdalifa en toute quiétude et dignité et multiplient la talbiyah, obéissance à la paix d'Allah. Il a le pas lorsqu'il se trouve dans une zone dégagée comme l'a fait le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et il n'est pas permis de s'en aller avant le coucher du soleil, parce que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a stationné jusqu'au coucher du soleil et a dit
« Imitez-moi dans vos rites ».
Lorsque les pèlerins arrivent à Muzdalifa, ils font l'office de prière du Maghrib en trois rak'at, du Isha en deux rak'at, et en les réunissant après un seul appel à la prière et deux ikhama, juste à leur arrivée, car le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a fait de même. Et cela se fera quel que soit le moment d'arrivée à Muzdalifa, que ce soit au moment du crépuscule ou après l'entrée du temps d'Aïcha. Quant à ce que font certaines personnes, telles le ramassage de cailloux pour la lapidation des jumas dès leur arrivée à Muzdalifa, avant la prière, croyant que cela est légitime, il ne s'agit que d'une erreur sans fondement. Et le prophète, bénédiction à paix d'Allah sur lui, a ordonné qu'on lui ramasse les cailloux qu'après son départ de Mashar vers Mina. Il n'est pas spécifié de ramasser ces cailloux à Muzdalifa exclusivement, mais on peut en ramasser à Mina ou ailleurs. La Sunna recommande d'en ramasser 7 ce jour-là en vue de l'affider la Jamal de l'Aqaba, conformément à ce que si le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui. Quant au jour suivant, le pèlerin ramassera de Mina 21 cailloux chaque jour pour lapider les 3 Jamalat. Il n'est pas louable de laver les cailloux, mais on les lancera sans les laver, car ceci n'a pas été rapporté sur le prophète, et bénédiction d'Allah sur lui et de ses compagnons, et il ne faut pas lapider avec des cailloux qui ont déjà été utilisés pour la lapidation. Le pèlerin passera la nuit à Muzdalifa, et il est permis aux faibles et aux enfants de quitter vers Mina à la fin de la nuit, conformément au hadith de Aïcha et Umm Salama et autres. Quant aux autres pèlerins, ils doivent y rester jusqu'à l'office de prière d'Al-Fajr, puis stationner auprès d'Al-Mashar, sacré, alors ils s'orientent vers la Qibla et multiplient les invocations, la formule Allahu Akbar, jusqu'à l'apparition de la lumière de l'aube. Il est louable de tendre les bras en pareilles circonstances lors des invocations et partout où on stationne à Muzdalifa. Cela est permis et il n'est pas obligatoire de s'approcher d'Al-Mashar, sacré, ni d'y monter, conformément au hadith du prophète et bénédiction d'Allah sur lui.
J'ai stationné ici, c'est-à-dire près du Mashar, et le Toujama est un lieu de stationnement.
Ce hadith a été rapporté par Muslim dans son Sahih, et le Toujama signifie le tout au Muzdalifa.
À l'aube, les pèlerins se dirigent vers Mina avant le lever du soleil et multiplient la talbiya en marchant. Lorsqu'ils atteignent la Hasir, il est louable qu'ils accélèrent un peu le pas, et quand ils arrivent à Mina, ils cessent la talbiya près de la stèle de la Aqaba, puis ils la lapident dès leur arrivée avec 7 cailloux successifs. Le pèlerin lève la main au moment de jeter chaque caillou et il dit « Allahu Akbar ». Il est louable de jeter les cailloux en ayant la Kaaba à sa gauche et Mina à sa droite, comme l'a fait le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et s'il lapide de quelque autre côté, cela est permis tant que le caillou atteint la stèle. Et il n'est pas exigé que les cailloux y restent, mais l'essentiel est qu'ils y tombent. Et si le caillou atteint la cible, puis en sort, il est toujours compté selon la conclusion des gens de connaissance et selon ce que déclare Nawawi, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, dans son ouvrage « Sharh al-Muhaddab », les cailloux doivent être de la taille d'une noisette, un peu plus gros que la graine de pois chiche. Puis, après la lapidation, le pèlerin immole son offrande en l'orientant vers la Qibla et il est louable de dire « Bismillah, Allahu Akbar, cela provient de toi et revient à toi ». La sunna recommande d'immoler les chameaux, la patte avant gauche attachée, et d'immoler, c'est-à-dire d'égorger les bovins et les ovins couchés sur le côté gauche. Et si on égorge sans s'orienter vers la Qibla, on aura délaissé la sunna, mais l'immolation demeure valable, car ce qu'on a délaissé relève de la sunna et n'est pas une obligation.
Il est préférable de manger une partie de la chair de son offrande et d'en distribuer aux pauvres, conformément aux paroles du Tout-Puissant.
Mangez-en vous-même et faites-en aussi un repas aux besogneux misérables.
Le temps de l'immolation s'étend jusqu'au coucher du soleil, du troisième jour de Tachriq, selon la majorité des gens de connaissance. Ainsi, la période d'immolation sera le jour du sacrifice, puis les 3 jours suivants. Ensuite, et après l'immolation de l'offrande, le pèlerin se rase les cheveux ou bien les raccourcit en coupant une partie, mais le rasage est plus méritoire parce que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a sollicité la miséricorde et le pardon 3 fois pour ceux qui se sont rasés et une seule fois pour ceux qui se sont coupés les cheveux. Et ce n'est pas suffisant de se couper les cheveux d'une partie de la tête, il est nécessaire de le faire pour l'ensemble des cheveux, comme il est d'usage pour le rasage. Pour la femme, elle coupe de chaque tresse une partie de la longueur d'une phalange environ. Après la lapidation de la stèle de l'Aqaba, le rasage ou coupe des cheveux, le pèlerin peut se permettre tout ce qui y était proscrit en état du haram, sauf les femmes, et ça s'appelle la désacralisation mineure. La sunna lui recommande de se parfumer et d'aller vers Mecca al-Mukarrama pour faire la circonvolution obligatoire de l'Ifada, conformément au hadith de Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, qui a dit je parfumais le messager d'Allah, des bénédictions d'Allah sur lui pour son ihram, avant de se sacraliser. Et au moment de sa désacralisation, avant de faire le tawaf autour de la maison, la Kaaba. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et on appelle ce tawaf, tawaf al-Ifada et tawaf al-Ziyara. C'est un des piliers du Hajj. Celui-ci ne s'achèvera que par sa pratique. Ceci est signifié dans les paroles du Tout-Puissant, le Tout-Majestueux.
Puis qu'ils mettent fin à leurs interdits, qu'ils nettoient leur corps et qu'ils remplissent leurs vœux et qu'ils fassent des circuits autour de l'antique maison.
Après ce tawaf et la prière de la Ka'at derrière Maqam Ibrahim, le pèlerin fait les circuits entre Safa et Al-Marwa s'il est mutamattir. Ainsi ce dernier sa'i est pour son hajj, alors que le premier était pour Farma. Et un seul sa'i n'est pas suffisant selon l'avis de l'ulama, conformément au hadith de Aïcha qui a dit: nous sommes sortis en compagnie du messager d'Allah et bénédiction d'Allah sur lui. Alors, elle a cité le hadith dans lequel le prophète a dit:
celui qui a apporté son offrande, qu'il formule l'intention d'accomplir le hajj avec la Umrah, puis qu'il ne se désacralise pas avant de se libérer des deux rites ensemble.
Jusqu'à ce qu'elle ait dit: pour ceux qui ont formulé l'intention de commencer par la Umrah, ils font le tawaf de la maison, puis les circuits entre Safa et Al-Marwa, puis se désacralisent. Ensuite, ils font un autre tawaf après leur retour de Mina pour le compte de leur hajj. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et lorsque Aïcha a dit qu'Allah soit satisfait d'elle, ceux qui ont formulé l'intention de commencer par la Umrah et qui ont accompli un autre tawaf à leur retour de Mina pour le pèlerinage, eh bien, elle faisait allusion au circuit entre Safa et Al-Marwa, selon la plus juste interprétation de ce hadith. Et celui qui prétend qu'elle voulait dire le tawaf al-Ifada se trompe, car le tawaf al-Ifada est un pilier obligatoire pour tous, un pilier que les pèlerins accomplissent. Et le but visé est donc spécifié pour celui qui est mutamattir. Il s'agit plutôt du circuit entre Safa et Al-Marwa, une deuxième fois après le retour de Mina pour achever son hajj. Cela est donc précis par la grâce d'Allah et selon l'avis de la majorité des gens de connaissance. Quel est l'ordre d'accomplissement des rites et quel en est le plus méritoire le jour de l'immolation?
Il est plus méritoire pour le pèlerin de procéder par ordre pour les quatre rites du jour de l'immolation. Il commence par la lapidation de la Jamra de l'Aqaba, puis l'immolation, ensuite le rasage ou coupe des cheveux et le tawaf autour de la maison, la Kaaba, et puis le sa'i entre Safa et Al-Marwa pour celui qui est en tamattu' et aussi pour celui qui est en ifrad et celui en qiran, au cas où ces deux derniers n'avaient pas déjà fait leur circuit, le sa'i, avec le tawaf d'arrivée. Et si on avance l'un de ces rites par rapport aux autres, cela est permis conformément à l'autorisation accordée par le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, y compris le fait de faire précéder le tawaf par les circuits du sa'i, parce que c'est un des rites à accomplir le jour de l'immolation, comme le prouvent ces paroles d'un des compagnons qui a rapporté ceci. Chaque fois qu'on a demandé au prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui ce jour-là, son avis à propos de l'avancement ou du retardement de quelques rites, il répondait:
c'est sans inconvénient.
Et il est d'ailleurs certain que le prophète paix et bénédiction d'Allah sur lui a été consulté à propos de celui qui a fait les circuits du sa'i avant le tawaf et avait répondu:
aucun inconvénient.
Ceci a été rapporté par Abu Daoud. Ceci est clair et il n'y a donc aucun doute à ce sujet et c'est Allah qui détient le savoir. Les rites après lesquels le pèlerin est désacralisé totalement sont au nombre de trois, à savoir la lapidation de la Jamrat al-Aqaba, le rasage, coupe des cheveux et le tawaf al-Ifada, avec les circuits du sa'i juste après. Lorsqu'il aura accompli ces trois rites, tout ce qui lui était interdit en état d'ihram lui redevient permis par la suite, telle l'approche des épouses, le parfum, etc. Quant à celui qui n'en a accompli que deux seulement, il lui est permis tout ce qui lui était interdit en état d'ihram, sauf les relations conjugales. Cela est appelé la désacralisation mineure. Il est louable pour le pèlerin de boire de l'eau de Zamzam le plus qu'il peut et de formuler quelques-unes des invocations utiles, et l'eau de Zamzam a le privilège d'exaucer les vœux de celui qui en formule en la buvant, comme il a été rapporté du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Dans le Sahih de Muslim, d'Abu Dharr, que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit à propos de l'eau de Zamzam,
c'est vraiment une nourriture pour celui qui veut manger.
Et Abu Daoud ajoute,
et guérison pour la maladie.
Après la procession d'Al-Ifada et les circuits de Saï, pour celui qui ne l'a pas fait, le pèlerin revient à Mina pour y rester 3 jours et 3 nuits et lapider les 3 jimas chaque jour après l'inclinaison du soleil. Et il faut procéder à la lapidation par ordre, en commençant par la première jama, celle qui se situe du côté de la mosquée Al-Khaif. Le pèlerin y jette 7 cailloux successifs, il lève la main à chaque lancement, et il est recommandé par la sunna qu'il demeure en retrait par rapport à la stèle qui doit être à sa gauche, et de s'orienter vers la qibla, de lever les bras et de multiplier les invocations avec humilité. Puis il lapide la deuxième jamra de la même façon, et il est préférable de s'avancer un peu après la lapidation, de la voir à sa droite, de s'orienter vers la qibla, de lever les bras et d'invoquer Allah longuement. Ensuite, il lapide la troisième jamra sans s'arrêter pour les invocations. Puis il lapide les 3 jamarat le deuxième jour du Tashriq, l'après-midi, de la même manière que le premier jour, et il fait à la première et à la deuxième comme ce qu'il a fait le premier jour, conformément à ce qu'avait fait le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. La lapidation lors des 2 premiers jours du Tashriq est une des obligations du Hajj, comme le campement à Mina, la première et la deuxième nuit qui est obligatoire, sauf pour les porteurs d'eau qui abreuvent les pèlerins, les bergers, etc., qui en sont dispensés. Ensuite, et après la lapidation au cours des 2 jours cités, celui qui est pressé de quitter Mina peut le faire, mais il doit quitter ses lieux sacrés avant le coucher du soleil. Quant à celui qui y passe la troisième nuit et lapide les jamarat le troisième jour, cela est plus méritoire d'une plus grande récompense, comme le dit Allah le Tout.
Et invoquez Allah pendant les jours d'Égypte. Il n'y a pas de péché pour qui se comporte en piété à partir au bout de 2 jours, à s'attarder non plus. Et craignez Allah et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés.
Et le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a autorisé les gens à partir, mais ne s'est pas hâté de partir lui-même. Il est resté à Mina jusqu'à la lapidation des jamarat, lors du 13e jour de Dhul-Hijja, après-midi, qu'il a quitté ensuite, avant de faire l'office de prière du Dhuha. Il est permis au tuteur du jeune garçon incapable de lapider de le faire à sa place pour la lapidation de la jamarat al-Aqaba et les autres jamarat, après l'avoir fait pour son propre compte. Il en est de même pour la fillette, incapable de lancer les cailloux, dont le tuteur est appelé à le faire à sa place, conformément au hadith rapporté par Jabir. Nous avons accompli le pèlerinage, le hajj, avec le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et nous étions accompagnés par les femmes et les jeunes enfants. Alors nous avons prononcé la terbiya à la place des enfants et nous avons lapidé pour eux, rapporté par Ibn Majah. Il est permis à ceux qui sont incapables de lapider pour cause de maladie, de vieillesse ou de grossesse, de désigner quelqu'un pour le faire à leur place, conformément aux paroles d'Allah le Tout.
Craignez donc Allah autant que vous pouvez.
Car ceux-là ne peuvent s'engager dans la foule près des jamarats, et le temps indiqué pour la lapidation doit être respecté, car une fois passé, le rite ne peut être accompli. Donc, il leur est permis de déléguer quelqu'un pour cela. Par contre, il n'est pas permis pour ceux qui sont en état d'ihram de désigner autrui pour l'accomplissement des autres rites, même s'il s'agit d'un pèlerinage surérogatoire, car celui qui se sacralise en vue d'accomplir le Hajj ou la Umrah, même surérogatoire, doit nécessairement les achever conformément aux paroles d'Allah le Tout-Haut.
Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et la Umrah.
Quant au temps de tawaf autour de la Kaaba et celui des circuits Sa'y, on peut les faire sans crainte de les manquer, contrairement au temps de lapidation. La station à Arafat et le campement la nuit à Muzdalifa et à Mina se font à des moments précis qu'on ne doit pas manquer, et même l'invalide peut, au prix parfois de beaucoup de peine, s'y trouver au bon moment. Par contre, il ne peut lapider de lui-même, et les pieux ancêtres ont rapporté que seul l'invalide peut déléguer pour ce rite quelqu'un d'autre à sa place. Les actes d'adoration sont des actions désignées par la législation islamique, et personne ne peut en légiférer, en aucun cas, sinon par preuve. Il est permis à la personne désignée par une autre pour la lapidation de le faire pour son propre compte, puis pour celui qui l'a désigné en lapidant chacune des trois jamarates au même moment, et elle n'est pas tenue de lapider les trois jimar pour son compte, puis revenir pour faire de même au nom de celui qui l'a désigné, selon le plus juste avis des gens de connaissance, car il n'y a aucune preuve quant à l'obligation de le faire ainsi, et ce à cause de la difficulté et de la gêne qui en résulterait. Et Allah, gloire à lui, le Tout-Haut, a dit
« Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. »
Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit
« Facilitez et ne compliquez pas. »
Et cela n'a pas été fait par les compagnons du prophète lorsqu'ils ont lapidé en remplacement de leurs enfants et de l'invalide parmi eux, et s'ils l'avaient fait, on l'aurait rapporté, vu l'intérêt qu'il y avait à enregistrer de tels faits, et Allah est seul détenteur de la connaissance.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك.
Le sacrifice d'une bête et de cheptel est-il obligatoire pour celui qui fait le pèlerinage, et dans quel cas?
Le pèlerin qui a choisi un des mots de Tanatur ou Kiran et qui ne fait pas partie des habitants du territoire de la mosquée sacrée doit faire un sacrifice. Un sacrifice qui est de la valeur d'un ovin ou d'un septième d'un chameau ou du septième d'un bovin. Et il faut que cela soit acquis avec de l'argent licite, de sources purifiées, car Allah est pur et il n'agrée que ce qui est pur. Il faut que le musulman s'abstienne de demander aux gens son offrande, qu'il soit roi ou autre, du moment qu'Allah lui permet de présenter son offrande de son propre argent et lui donne l'occasion de ne pas convoiter ce que possèdent les autres, comme le signifie d'ailleurs de nombreux hadiths du prophète, et bénédictions d'Allah sur lui, où il blâme ceux qui ne cessent de quémander aux autres et où est félicité celui qui fait preuve de chasteté. Et si le pèlerin en tamateur ou en kéran se trouve dans l'impossibilité de présenter l'offrande, alors il devra observer le jeûne durant 3 jours en période de hajj et 7 jours lorsqu'il revient chez lui. On lui laisse le choix du jeûne lors des 3 jours. Il peut le faire soit avant le jour de l'immolation, soit les 3 jours de tachrik. Allah le Tout-Puissant a dit:
quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait la Umrah en attendant le pèlerinage doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'a pas les moyens, qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit en tout 10 jours. Cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la mosquée sacrée.
Dans le Sahih d'Al-Bukhari,
On rapporte que Aïcha et Ibn Omar ont dit « Il n'a pas été permis, les jours de Tashrir, de faire le jeûne, sauf à celui qui n'a pas trouvé d'offrande. »
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك
Le pèlerin est bien sûr tenu d'ordonner le convenable, mais il doit également adopter un comportement exemplaire vis-à-vis d'autrui.
Parmi les plus grandes obligations dont sont chargés les pèlerins et les autres, il faut ordonner le bienfait et prévenir contre les actes réprouvés et blâmables. Il faut être assidu à l'office des cinq prières en assemblée, comme l'a ordonné Allah dans son livre saint, et comme l'a dit son prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Parlons à présent du mérite pour le fidèle d'être obéissant aux ordres d'Allah et de son prophète.
Il est préférable pour les pèlerins d'être assidus à l'invocation d'Allah et à l'obéissance à ses ordres, aux bonnes œuvres tout au long de leur résidence à Makkah al-Mukarrama, et de multiplier les prières et le tawaf autour de la maison sacrée. Car les bonnes œuvres dans les lieux saints seront multipliées et les œuvres blâmables sévèrement réprimées, comme il leur est préférable de multiplier la bénédiction et le salut sur le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Lorsque les pèlerins désirent quitter Makkah al-Mukarrama, ils doivent procéder au tawaf d'adieu, qui sera pour eux le dernier souvenir de la maison d'Allah. La femme menstruante et celle qui vient d'accoucher ne doivent pas faire cette procession, ou plutôt ce tawaf, conformément au hadith d'Ibn Abbas qui a dit « Il a été ordonné aux gens à ce que leur dernier rite soit le tawaf autour de la maison sacrée, excepté la femme en menstrue, qui en a été dispensé. » Hadith de véracité approuvée. Quand le pèlerin achève cet adieu à la Kaaba et veut sortir de la mosquée sacrée, il s'en ira dans la direction normale de sa marche, sans avoir besoin de marcher à reculons, car cela n'a pas été accompli par le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ni par ses compagnons, mais c'est une des innovations indésirables. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a déjà dit
« Quiconque accomplit un acte sans notre ordre, celui-là est à repousser. »
Et il a dit, paix et bénédiction d'Allah sur lui,
« Prenez garde aux pratiques inventées, car toute pratique inventée est innovation et toute innovation est égarement. »
Nous sollicitons d'Allah d'être constant dans la pratique de sa religion, et de nous préserver de toute désobéissance, car il est le bienfaiteur et le généreux.
Quelles sont les prescriptions de la visite de la Sainte Mosquée du Prophète?
La Sunna autorise la visite de la Sainte Mosquée du Prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avant le grand pèlerinage ou bien après, selon ce qui est inscrit dans les deux Sahih, où Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit
Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Une prière dans ma mosquée ici est mieux rétribuée que 1000 prières dans toute autre mosquée, à part dans la mosquée sacrée de Mecca. »
Et Ibn Omar rapporte que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit
« Une prière dans ma mosquée ici est plus méritoire que 1000 prières dans une autre, à part dans la mosquée sacrée. »
Rapporté par Muslim. Lorsque le visiteur arrive à la mosquée, il lui est préférable d'avancer son pied droit au moment d'entrée et de dire
« Au nom d'Allah, que la bénédiction et la paix soient sur le messager d'Allah, je cherche refuge auprès d'Allah le Très Grand et auprès de sa face généreuse et son autorité éternelle contre Satan le lapidé. Seigneur, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. »
Il fera de même à l'entrée de chaque mosquée et il n'y a pas d'invocation et de rappel spécifique à dire à l'entrée de la mosquée du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ensuite, le visiteur fait une prière en deux rak'ats et invoque Allah pour ce qu'il désire de bien dans ce monde et dans l'au-delà. Et s'il accomplit ces deux rak'ats dans la rawda, honorée, espace compris entre la chaire et la maison du prophète, cela est plus méritoire, conformément à ce qu'il a dit, paix et bénédiction d'Allah sur lui.
l'espace compris en ce moment 1000 bains, et la maison est l'un des jardins du paradis.
Puis, après la prière, il visite la tombe du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et les tombes de ses deux compagnons, Abu Bakr et Omar, qu'Allah soit satisfait d'eux. Puis, se tenant en face de la tombe du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, avec respect et à voix basse, il lui adresse le salut en disant
« Que la paix soit sur toi, messager d'Allah, et la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. »
Selon ce qui est écrit dans le Sunan d'Abi Daoud, de bonne référence, rapporté par Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit
« Le prophète a dit, quiconque me salue, alors Allah me rend mon âme, afin que je lui rende le salut. »
Et si le visiteur dit
« Que la paix soit sur toi, ô prophète d'Allah, que la paix soit sur toi, ô meilleur des créatures d'Allah, que la paix soit sur toi, ô chef des messagers et imams des vertueux, je témoigne que tu as mené à bonne fin ton message, accompli parfaitement ta mission, conseillé la nation et lutté pour Allah de la façon la plus parfaite. »
Cela est permis, car ce sont là les qualités du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Ensuite, il sollicite la bénédiction d'Allah et formule les meilleures invocations sur lui, conformément à ce qu'a déclaré le tout haut.
Ô croyant, priez sur lui et saluez-le de bonnes salutations.
Ensuite, le visiteur salue Abu Bakr et Omar, qu'Allah soit satisfait d'eux, et sollicite pour eux l'agrément. Et Ibn Omar, quand il saluait le messager et ses deux compagnons, n'ajoutait rien la plupart du temps à la formule suivante.
Que la paix soit sur toi, ô messager d'Allah. Que la paix soit sur toi, ô Abu Bakr. Que la paix soit sur toi, ô mon père.
Puis il s'en allait. Cette visite n'est prescrite que pour les hommes. Quant aux femmes, elles n'ont pas à visiter les tombes, comme l'atteste le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, qui a maudit les visiteuses de tombes et celles qui en font des lieux de prière et allument des cierges. Cependant, la visite à Al-Madina Munawara pour faire la prière dans la mosquée du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et y invoquer Allah ou d'autres pratiques religieuses permises dans toutes les mosquées sont requises pour tous, conformément aux hadiths précités. La Sunna recommande aux visiteurs de faire l'office des cinq prières à la mosquée du messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et d'y multiplier les invocations et les prières surérogatoires afin de bénéficier de la large récompense. Il ne permet à quiconque de passer la main contre les parois de la chambre honorée renfermant la tombe du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ou de tourner autour de la chambre honorée, car cela n'a jamais été rapporté par nos pieux ancêtres. Par contre, il s'agit d'une innovation blâmable et il n'est permis à quiconque de solliciter du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, d'exaucer quelques vœux ou de soulager de quelques malheurs ou de guérir un malade, etc. Car tout cela ne peut être demandé qu'à Allah, pureté à lui. Le fait de solliciter quelque chose aux morts est une forme de shirk, de polythéisme. Il y a une importante remarque à soulever.
La visite de la tombe du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, n'est pas obligatoire, ni une condition dans le pèlerinage non plus, comme le croient certains ignorants et assignés. Cependant, il est louable pour celui qui rend visite à la mosquée du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ou celui qui se trouve tout près, de l'accomplir. Quant à celui qui se trouve assez loin d'Al-Madina, il n'est pas tenu de faire le voyage dans le seul but de visiter la tombe du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Il est simplement recommandé par la Sunna de voyager en direction de la mosquée honorée.
Et qu'en est-il de la visite de la mosquée Quba et du cimetière d'Al-Baqir?
Il est louable pour celui qui se rend à Al-Madina, Al-Munawara, de visiter la mosquée de Quba et qu'il y fasse la prière conformément au hadith rapporté dans Al-Sahihayn. On rapporte qu'Ibn Omar, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, rendait visite à la mosquée de Quba sur une monture ou bien à pied et il priait en deux rak'ahs. contraire, les pèlerins, ce programme est une adaptation audio, une traduction du livre sur la vérification et l'éclaircissement de son éminence, le Mufti général du Royaume d'Arabie Saoudite, Al-Sheikh Abdelaziz bin Abdullah bin Baz.
مع تحيات مركز الوسائل بوكالة المطبوعات والنشر بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مع تمنياتنا لكم بحج مبرور.